Pour ceux qui sont habitués à l'Église, vous savez que cette année, on a étudié les psaumes ensemble. Donc on arrive sur la fin de cette étude, parce que probablement qu'à la rentrée, on va aborder un nouveau thème. Probablement qu'à la rentrée, on abordera un nouveau thème, mais j'avais quand même envie de continuer avec cette étude des psaumes. Il y a, je ne sais plus, il y a 15 jours, Yann nous avait abordé le psaume 14, et qui d'ailleurs contenait un verset que j'ai lu ce matin en introduction dans Romains, où David constatait l'égarement et la corruption du monde et des hommes qui l'entouraient. Et puis, ce matin, j'ai eu envie de continuer donc dans cette étude des psaumes avec le psaume suivant, le psaume 15. Un psaume qui nous parle de ce qu'on appellerait maintenant peut-être la sanctification, ou en tout cas la marche avec Dieu. Et on va le lire ensemble, et puis je vous dirai un petit peu comment je l'ai abordé. Donc c'est un psaume, donc psaume 15, psaume de David, je vais le lire dans la traduction du Semeur. Donc dans ma Bible, l'intitulé de ce psaume, c'est « Qui peut vivre avec Dieu ?» Donc psaume 15, psaume de David. José, tu arrives à le... Voilà, merci. « Éternel, qui peut rester dans ton sanctuaire ? Qui donc peut demeurer sur ta montagne sacrée ? L'homme a la conduite intègre, il pratique la justice, et il dit la vérité qu'il pense au fond de son cœur. Il n'insulte pas son frère, il ne raconte rien qui déprécie son prochain ou lui cause un préjudice. Il méprise l'homme vil, mais il honore celui qui respecte l'Éternel. Il tient toujours ses serments, même s'il doit en pâtir. Lorsqu'il prête de l'argent, c'est toujours sans intérêt. Il refuse qu'on l'achète pour condamner l'innocent. Qui se conduit de la sorte, rien ne pourra l'ébranler. » En ce moment, je suis en train de lire toute une série de livres qui se passent dans la réserve des Navarros, aux États-Unis. Vous savez que Daniel Coronez, qui est parti maintenant travailler parmi les Indiens au Canada, a pendant un moment, est intervenu en fait dans cette réserve parmi les Navarros. Et donc dans cette série de livres que je lis, en fait, ça parle simplement de la culture et de la façon dont cette tribu envisage le monde et envisage aussi sa spiritualité. Et donc cette tribu a une façon assez particulière d'aborder sa place dans le monde. Et on peut dire qu'ils ont une religion de la beauté, une religion de l'harmonie. Pour eux, l'objectif dans la vie, c'est de marcher, en tout cas c'est ce que j'ai lu, donc de marcher dans la beauté, marcher en harmonie avec le monde qui les entoure. Et contrairement à d'autres tribus indiennes qui les entourent, où quand quelque chose arrive, en particulier la sécheresse, hein, ils vivent dans un endroit qui est particulièrement aride, la plupart du temps, les autres tribus, quand la sécheresse arrive, ils vont faire des cérémonies, ils vont prier pour que Dieu envoie la pluie. Et les Navarros abordent ça d'une façon un petit peu différente, c'est que eux, au lieu de demander à ce que Dieu envoie la pluie, ils cherchent plutôt à retrouver l'harmonie avec la sécheresse qui les entoure. Et donc ils vont plutôt chercher à être en paix finalement avec ce qui est autour d'eux. Et j'ai trouvé que ces deux façons d'aborder la relation à Dieu se retrouvent aussi dans dans la Bible, et en particulier peut-être dans ce passage. Ici, David nous dit qu'il cherche la présence de Dieu. C'est un thème qui revient fréquemment dans les psaumes, où David dit qu'il veut habiter dans la maison du Seigneur. On le chante aussi régulièrement dans nos chants. Et en fait, cette idée d'habiter dans la présence de Dieu, eh bien c'est différent de l'idée de demander à Dieu quelque chose. C'est une façon aussi de s'adresser à Dieu, par exemple de lui offrir des sacrifices pour demander son pardon. C'est une première façon de s'adresser à lui, mais aussi une façon habituelle de parler à Dieu, c'est de lui parler de nos problèmes et de lui demander de les résoudre. Mais dans l'attitude de David, là, on a une autre façon de s'approcher de Dieu. Dans cette façon, eh bien, ce qui est recherché, ce n'est pas ce que Dieu peut nous donner, mais ce qui est recherché, c'est la présence même de Dieu. Le fait de désirer être dans la proximité avec Dieu. Et cette proximité, eh bien, ne va pas changer le monde qui nous entoure, mais elle va nous changer nous. On sait que notre culture occidentale a consisté bien souvent à transformer le monde pour l'adapter à nos besoins. En faisant ça, on sait que on a aussi abîmé ce qui était autour de nous. On a planté du gazon dans des endroits où il n'y avait pas d'eau. On a fait toutes sortes de choses en se disant que c'était le monde autour de nous qui devait s'adapter. Et l'attitude que David nous décrit ici, c'est une attitude inverse, qui nous dit comment est-ce que nous-mêmes nous devons être transformés par la présence de Dieu. Le premier verset, enfin le verset 2, David commence en disant « L'homme intègre, il pratique la justice ». Et je disais en introduction que ce texte pouvait nous parler de sanctification. Et c'est vrai que la sanctification est un processus, une marche. Paul va parler même d'une course. Et dans le texte que j'ai lu en introduction de ce culte, où Jésus nous présente la sainteté que Dieu attend de nous, on se rend bien compte que c'est une sainteté qu'on n'arrive pas à atteindre. Avoir de l'amour pour ses ennemis, transformer son cœur de telle sorte que nos yeux soient purs. On voit bien que toutes ces choses-là sont un cran au-dessus de ce qu'on arrive à pratiquer au jour le jour. Donc cette sanctification, cette marche avec Dieu, c'est un processus. Nous nous approchons de Dieu en nous laissant transformer par lui. Mais la façon dont David parle de cette relation à Dieu, là, il nous parle plutôt d'un état, d'une façon d'être. Une façon d'être, cette façon d'être un homme intègre, un homme selon le cœur de Dieu. Et c'est ce que la Bible nous dit de David. David était un homme selon le cœur de Dieu. Imparfait comme nous, mais selon son cœur. Parce qu'il cherchait justement cette présence, et il recherchait la paix. La paix que la présence de Dieu procure, cet état où la présence de Dieu nous montre quel est le chemin à suivre et comment nos actes doivent en être transformés. Le premier aspect de cet état d'homme intègre, d'homme selon le cœur de Dieu, Cette première étape, c'est la maîtrise de la langue. Alors évidemment, c'est un thème qui est repris aussi hein, dans le Nouveau Testament, de cette idée que Jésus va le dire comme ça. Donc ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui le souille, mais ce qui en sort, parce que ce qui en sort, c'est ce qui vient de son cœur. Et c'est exactement ce que nous dit ce texte. L'homme intègre dit la vérité qu'il pense au fond de son cœur. Une autre traduction, c'est même l'homme intègre qui, dans son cœur, cultive la vérité. Quand nous cultivons dans notre cœur la vérité, quand nous arrivons à exprimer ce qui est au fond de nous et ce qui, au fond de nous, est le fruit qui dit de quel arbre nous sommes. Le fruit de... Alors pour nous qui sommes dans la Nouvelle Alliance, le fruit de la présence de l'Esprit en nous, ce qui grandit dans notre cœur, ce que nous faisons grandir. Nous savons bien que c'est là que se joue la première bataille, dans ce qui grandit dans notre cœur. L'opposé de cette vérité qui grandit, eh bien, c'est d'abord, ça peut être l'envie ou la colère, la rancœur. En travaillant un peu cette prédication, je me suis rappelé d'un terme que j'avais entendu dans une émission, un terme allemand, qui vient des philosophes allemands, qui s'appelle, alors je vais essayer de le prononcer sans trop... Donc, Schadenfreude. Je ne sais pas si quelqu'un parle allemand ici, personne ? Non ? Oui ? Bon. Donc en gros, donc ce Schadenfreude, c'est la joie malsaine. La joie quand le mal arrive à quelqu'un d'autre. C'est quelque chose qu'on a tous à un moment donné ressenti. Alors les supporters de foot, typiquement, ressentent ça quand l'équipe qui a battu la leur se prend des buts face à une autre équipe. D'accord ? Quand l'équipe ennemie se casse la figure, eh bien on ressent cette joie de voir son ennemi en tout cas souffrir. Plus généralement, on ressent cette joie malsaine quand quelqu'un qu'on envie, souffre. Et c'est quelque chose qui est assez communément partagé. Donc ce qui grandit dans notre cœur, est-ce que c'est l'envie ou la rancœur, ou bien est-ce que c'est la vérité? Et on sait que la vérité dans la Bible, c'est pas une notion philosophique. C'est d'abord un principe d'action, un principe qui libère. Et Jésus va nous dire, la vérité fera de vous des hommes libres. La vérité, selon Dieu, c'est un principe qui libère et qui fait grandir. Et on le voit quand David nous parle de la façon dont cette langue s'exprime. Il nous dit donc, l'homme intègre n'insulte pas son frère. Et c'est vrai que l'insulte, c'est d'abord quelque chose qui enferme. C'est d'abord quelque chose qui enferme. Quand je traite quelqu'un d'idiot, je l'enferme dans un comportement, je l'enferme dans une identité qui l'abaisse et qui le déprécie. L'homme intègre ne raconte rien qui déprécie son frère ou qui lui cause un préjudice. La vérité qui sort de notre bouche doit servir à faire grandir. Elle doit servir à libérer. Elle doit servir à valoriser, à encourager. Et bien sûr, l'exemple type de cette vérité qui vient du fond du cœur, bien sûr, c'est le Christ qui nous en a donné l'exemple. Et on peut remarquer combien à chaque fois que Jésus prend la parole et parle à quelqu'un, eh bien la parole qui sort de sa bouche libère et fait grandir. Le deuxième aspect de la vie de l'homme intègre, bien, c'est les relations. Et j'ai un peu bataillé avec ce verset 4, où David donc nous dit « L'homme intègre méprise l'homme vil, mais il honore celui qui respecte l'Éternel. Il tient toujours ses serments, même s'il doit en pâtir. » J'ai un peu bataillé avec ce verset parce que il me semble qu'on peut le... Une première façon de le comprendre pourrait être un espèce d'orgueil de classe. Un espèce de façon de se penser noble de cœur. Le mépris de l'homme vil. Dans cette phrase-là, on sent comme une espèce de supériorité. Le fait de toujours respecter ses serments, on peut penser à un orgueil de celui qui se pense suffisamment fort et bon pour être quelqu'un d'honorable. Dans ce verset, on pourrait se dire aussi que David nous incite à ne fréquenter que les gens qui sont... Alors, je vais le transposer à notre époque, mais en tout cas, que les gens qui sont chrétiens. Et on sait que c'est une tendance hein, dans nos églises à finalement n'avoir d'amis que dans le milieu chrétien, que dans notre église, que dans le milieu évangélique. Donc de restreindre sa bulle de connaissances à ce milieu-là et à ne s'ouvrir qu'à des gens avec qui on partage la même foi. Et je pense que c'est pas à ça que David nous encourage dans ce passage-là. Je pense que David nous encourage à réévaluer notre échelle de valeur sociale. Comment est-ce que nous voyons les gens qui nous entourent? Comment est-ce que nous évaluons notre relation à eux? Et dans cette façon de réévaluer, eh bien, c'est au lieu de prendre les valeurs que met en œuvre notre culture, notre société, eh bien, c'est de rechercher les valeurs que Dieu recherche. Quand on cherche les valeurs de Dieu, ben, la première chose qui nous frappe, c'est que, comme il est dit dans le psaume précédent, comme ce que j'ai lu dans Romains, c'est que d'abord, tous les hommes sont perdus. Tous les hommes sont corrompus. Et nous y compris. Donc on ne peut pas avoir une attitude de supériorité ou d'orgueil vis-à-vis des autres, parce que, quoi qu'il arrive, nous savons que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a tant aimé ceux qui nous entourent. Donc, la façon dont nous regardons les hommes doit être empreinte d'abord de l'amour que Dieu a manifesté pour eux. Malgré tout, dans les valeurs que notre société met en avant, on sait bien ce qui fait la valeur sociale dans notre culture. Ben, probablement d'abord la réussite, peut-être l'intelligence, peut-être la beauté. Toutes ces choses que notre culture valorise et met en avant. Mais là, David nous dit, c'est pas ces valeurs-là qui font la valeur d'un homme. Ce qui fait la valeur d'un homme, c'est ce à quoi Dieu donne du prix. Et il nous les donne dans ce passage, la justice, la vérité, la charité. Et il nous invite à rechercher ces valeurs-là dans ceux qui nous entourent, à les valoriser, peut-être aussi à les susciter, à les encourager. David nous met devant un choix dans ce verset. L'homme intègre tient toujours ses serments, même s'il doit en pâtir. C'est un choix de s'attacher à la vérité, à l'honnêteté, à la fiabilité. C'est un choix que nous avons à faire dans nos relations avec les autres. Et encore une fois, pas parce que nous avons l'orgueil de penser que nous sommes supérieurs aux autres et que donc nous avons un comportement qui serait moralement supérieur. Mais cette fiabilité, cette intégrité, nous pouvons la rechercher parce que nous agissons devant les hommes comme nous agissons devant Dieu. C'est ce que Paul va nous encourager à faire dans Colossiens, où il nous dit travaillez devant les hommes comme si vous travailliez pour Dieu. Dans votre engagement, dans les engagements que vous avez pris face aux hommes, eh bien tenez-les comme si vous les teniez devant Dieu. Ce n'est pas parce que nous sommes grands que nous respectons nos engagements, c'est parce que notre Dieu est grand et que nous marchons dans sa présence. Le dernier verset parle de l'argent. Et je reviens à un bref moment sur les Navarros dont je parlais en introduction. Les Navarros ont un rapport à la richesse qui est un peu particulier, c'est-à-dire qu'ils considèrent qu'un homme ne peut pas être riche et être un bon Navarro. Tout simplement parce que s'il est riche, c'est qu'il ne prend pas correctement soin de sa famille, parce que dans sa famille, il y a forcément quelqu'un qui a besoin d'argent, et donc si lui en a plein, c'est qu'il n'a pas su le donner aux autres. Et donc la richesse, c'est quelque chose qui est un concept qui est intrinsèquement mauvais dans cette culture. La Bible ne présente pas les choses de cette façon-là, mais malgré tout, elle nous interpelle sur notre rapport à l'argent. On se rappelle déjà de la mise en garde de Jésus par rapport à Mammon et au fait que nul ne peut servir à la fois Dieu et à la fois l'argent. Donc que cet argent est aussi une puissance spirituelle qui peut nous asservir. Paul nous rappelle que l'amour de l'argent est source de nombreux péchés et que ceux qui s'y adonnent s'éloignent de Dieu. Dans l'histoire de l'Église, le rapport à l'argent a été compliqué. Pendant très longtemps, typiquement, le prêt à intérêt dont il est question dans ce verset, hein, puisque Paul nous dit « L'homme intègre, lorsqu'il prête de l'argent, c'est toujours sans intérêt. » Le prêt à intérêt était interdit par l'Église. Pendant des siècles, c'était un chrétien ne pouvait pas prêter à intérêt. Alors la conséquence de ça, ça a été que c'est les Juifs à qui on a délégué finalement ce rôle social. Donc, et historiquement, les Juifs ont occupé des fonctions de banquiers à cause de ça. Parce que y avait qu'eux qui avaient le droit de prêter à intérêt. Au moment où le protestantisme a pris son essor, un disciple de Calvin, à une question qui lui était posée, a répondu que bien oui, le prêt à intérêt était possible et était quelque chose d'envisageable sans que ce soit un péché devant Dieu. Et donc, dans le monde protestant, eh bien, la fonction de banquier a pu faire partie des métiers envisageables pour un chrétien qui voulait suivre Dieu. Et vous avez peut-être entendu parler de Max Weber, hein, qui est un philosophe du début du XXe, qui a lié en fait l'essor du capitalisme, hein, de notre économie mondiale, avec la façon dont l'éthique protestante a transformé notre rapport au travail. Au travail et à l'argent. Et au fait que, eh bien, un homme pouvait accomplir sa vocation, accomplir ce que Dieu attendait de lui par son travail. Alors que, auparavant, dans le monde de, on va dire, catholique ou d'avant la Renaissance, la spiritualité était d'abord un retrait du monde. L'idéal spirituel de la société du Moyen-Âge, c'était le moine. C'était celui qui se retirait du monde et qui passait son temps à prier. Et l'éthique protestante a transformé cette vision d'un homme spirituel en un homme qui travaille et qui le fait d'une façon qui honore Dieu. Alors bon, évidemment, c'est bien que le capitalisme a ensuite dérivé assez loin de cette notion-là, et Dieu a été exclu du champ économique avec les conséquences qu'on peut voir maintenant. Donc un rapport qui peut être compliqué à l'argent. Mais ici David nous appelle à mettre en œuvre encore une fois une autre échelle de valeur. Une autre échelle de valeur. Il nous encourage d'abord à la compassion. À la compassion. Il nous encourage à apporter une aide désintéressée, puisque effectivement, prêter de l'argent sans intérêt, on prête de l'argent à celui qui en a besoin, et on refuse de prendre des intérêts parce qu'on ne veut pas être, on veut pas profiter de la détresse de celui qui vient emprunter. C'est un don qu'on lui fait, alors pas le don du fait de pouvoir profiter de l'argent qu'on lui prête sans en retirer davantage. Et c'est quelque chose qu'on doit apprendre à faire. Moi, il y a quelques épisodes comme ça dans ma vie où je me suis rendu compte a posteriori que j'avais raté l'occasion d'être généreux, que j'avais tiré profit d'un moment où, au contraire, j'aurais pu donner et être généreux. Et bon, c'est des échecs de mon que j'ai identifiés en tout cas comme tels. Et ces versets m'encouragent à essayer de les dépasser, ces échecs, et puis d'arriver à savoir distinguer les moments où Dieu attend de moi que je sois généreux, parce que c'est pas dans ma nature profonde de l'être. Il parle ensuite, David, de la corruption, ou de ce qui s'y oppose, de l'intégrité. Il refuse qu'on l'achète pour condamner l'innocent. Et là, on voit bien que l'argent est effectivement peut devenir quelque chose qui nous attire au point de renier notre identité. On sait bien que l'argent est un pouvoir, que l'argent est une sécurité, en particulier dans notre monde occidental capitaliste. Le fait d'avoir de l'argent, c'est une sécurité pour l'avenir. Et le fait de rechercher cette sécurité peut nous amener à renier notre identité propre, à renier ce qui fait de nous des hommes à la conduite intègre. Et cette démarche est une démarche où finalement on recherche à acquérir notre indépendance vis-à-vis de Dieu. L'homme intègre vit dans la dépendance de Dieu, et sa sécurité se trouve en Dieu. Et l'argent propose une alternative à ça. Propose de remplacer Dieu par notre propre sécurité. Et en faisant ça, évidemment, on perd cette présence qui nous conduit. Alors je vais m'arrêter là dans le commentaire de ce texte en concluant simplement que la force d'un homme dans ce texte, c'est la présence de Dieu, c'est de demeurer dans sa présence. Celui qui se conduit de la sorte, rien ne pourra l'ébranler. Et cette présence de Dieu, cette façon de cultiver cette présence, eh bien, c'est vrai que c'est un choix qui est renouvelé dans sa vie intérieure, dans ce que nous faisons grandir dans notre cœur. C'est un choix aussi dans les relations que nous tissons autour de nous, dans les valeurs que nous recherchons dans les hommes qui nous entourent. C'est un choix aussi dans la dépendance que nous acceptons de vivre vis-à-vis de Dieu. Et bien ce que je vous souhaite, ce que je vous encourage à vivre, bien c'est cette harmonie avec Dieu, c'est de marcher dans la paix avec lui au jour le jour, en choisissant ce qui a de la valeur à ses yeux. Je vous propose juste de passer quelques minutes pour que chacun d'entre nous on puisse méditer sur ce que ce texte nous enseigne.